Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. En me promenant à Paris il y a quelques mois, dans un quartier touristique, je dis presque tout Paris, c'est une ville touristique. Mais au 5e arrondissement, vers l'avenue Saint-Michel, j'ai lu une pancarte qui a attiré mon regard sur la devanture de la boutique. En gros, il était écrit « L'espérance ». Je me suis dit, dans une grande ville comme Paris, surtout là où j'étais, on vend de tout. Mais quand même, l'espérance, ça m'a interpellé. Donc, je me suis rapproché du magasin pour voir. Et en dessous du mot espérance, il est écrit « Centre d'aide pour le travail ». C'est vrai, dans ce centre, dans cette boutique, j'ai vu, ils fabriquent des sacs, des clés, des bibelots, de l'artisanat, tout ce qui est pour l'artisanat. En tout cas, j'ai été impressionné d'avoir eu ou le courage ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas pu interroger le monsieur pour voir pourquoi il avait noté sur un centre de formation Espérance. Je continue ma route. Avec depuis quelques mois, je réfléchissais sur qu'est-ce que je pouvais apporter comme prédication. Et quelques jours après cette promenade, j'entends à la radio qu'après plusieurs mois de confinement, certaines entreprises et associations ont repris partiellement leurs différentes activités. On dit « merveilleux ». Mais quelle fut leur surprise et celle des pouvoirs publics? C'est que les travailleurs manquaient à l'appel. Même certains hôtels et restaurants ont ouvert d'une manière partielle. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas partiel. Ils ne pouvaient pas ouvrir toutes les chambres parce qu'il leur manquait du personnel. Et même les entreprises du bâtiment ont été obligées de refuser certaines commandes car elle ne trouvait pas de main-d'œuvre. Oui, en écoutant la radio, on a dit que certains refusaient de travailler. Et ils avaient plusieurs raisons pourquoi ils ne voulaient pas reprendre le travail. Un certain contentement des aides sociales. Certains disaient mieux vaut avoir ce peu sans trop d'efforts, c'est quand même bon. La peur d'attraper le virus du Covid, donc préfère rester chez soi. Pour d'autres encore, c'est la peur de la pénibilité de leur emploi. On peut comprendre, c'est vrai que certains emplois ne sont pas souvent faciles. D'autres encore, par une certaine idéologie, disaient que l'État et plusieurs entreprises ont tellement d'argent qu'ils peuvent bien distribuer un peu d'argent à tous ceux et celles qui sont à la maison. C'est vrai qu'en écoutant toutes ces différentes personnes et en réfléchissant, on se rend compte que je me suis rendu compte que ce type de pensée ne date pas d'aujourd'hui, et même depuis des millénaires. Je vais juste vous lire vraiment un survol. Montrer que ce type de pensée existe, oui, depuis même l'époque des Grecs. Le poète grec Hésiode dit ceci : au commencement, les générations d'hommes vivaient sur terre loin des maux, M-A-U-X, loin des maux du travail pénible. Les hommes de l'âge d'or vivaient comme des dieux, libre des soucis et de la peine. Et même Platon partageait ce mépris du travail, surtout le travail manuel. Il dit, la nature n'a fait ni cordonnier, ni forgeron. Il dit, des pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent. Vils mercenaires, misérables sans nom. C'est quand même fort. Je continue pour Aristote. Il dit, la vie idéale qui nous rapproche de celle des dieux est une existence consacrée à la pensée contemplative et la réflexion philosophique. Elle seule assure à quelques-uns l'immortalité. On voit que pour ces Grecs, une partie des intellectuels romains, l'oisiveté était un idéal. Les sages voient que c'était un idéal. Et même au Moyen-Âge, on reprendra la séparation grecque et occupation, il y avait des occupations nobles, des hommes libres, et le travail vil des esclaves. Le pape Grégoire déclarait au VIe siècle, dit « La vie contemplative est plus méritoire que la vie active qui s'affaire à des tâches présentes, car elle goûte déjà la saveur du repos à venir. » La vie contemplative goûte déjà la saveur du repos à venir. Bien que la vie active soit bonne, mais la vie contemplative est meilleure. C'est vrai qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que nos compatriotes ont goûté à la vie contemplative? Et en écoutant cette émission à la radio, je me suis rendu que ce n'était pas simplement en France, même des républicains américains ont demandé à leur président Joe Biden de couper des aides sociales à certaines personnes pour qu'ils puissent reprendre le travail. Parce que le travail était là, mais il n'y avait personne. C'est vrai que c'était incompréhensible. La mentalité évoluant, c'est à la Renaissance que la découverte de Dieu comme créateur tout-puissant de l'univers modifia l'attitude de l'homme face au travail. Dieu n'était plus considéré comme un pur esprit, passif et distant, mais comme un habile artisan qui avait amené tout l'univers à l'existence, dont l'homme est appelé à ressembler à Dieu non seulement par la pensée, mais aussi par l'activité productrice. Par ces différentes activités créatrices, l'homme ressemble au Dieu créateur. Donc la Renaissance a rendu à tout travail, en particulier le travail manuel, sa dignité. Plus tard, les réformateurs, la réforme va même réexalter le travail en faisant une obéissance à la volonté de Dieu. Il dit, tout homme, tout travail utile est sacré. C'est un service à Dieu et à la société. L'homme est un gérant, appelé par Dieu à une occupation particulière, parce qu'il aura à lui rendre des comptes. L'homme aura à lui rendre des comptes. Qu'est-ce que nous pouvons conclure dans cette introduction ? Par cette introduction, que le travail manuel, intellectuel, ce n'est pas une malédiction, frères et sœurs. Le péché n'a pas introduit le travail dans le monde. Oui, le péché a modifié la nature du travail. Oui, le travail est devenu pénible. Le travail est devenu désagréable dans certains aspects, il faut le reconnaître. Le péché a atteint non seulement, il faut le reconnaître, que la vie personnelle de chacun, mais aussi la vie publique et sociale, en particulier le travail. Oui, la Bible parle au Genèse chapitre 3, il y aura des ronces et des chardons. L'homme travaillera à la sueur de son front. C'est une réalité, même si nous avons des machines aujourd'hui, mais il y a pénibilité. Mais nous devons être conscients que l'expérience du travail comporte une part de souffrance, de conflit, oui, même de jalousie, de fatigue, et dans certains cas même, beaucoup de frustration. J'aimerais que nous lisions, après avoir fait ce survol, que nous lisions quelques versets bibliques, juste au début de la Bible, dans Genèse, chapitre 1er, pour voir la vision biblique du travail. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Si vous permettez bien, nous allons lire le chapitre 2, verset 15. Dieu prit l'homme et le planta et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. En lisant ces différents versets, nous voyons ici la responsabilité confiée à l'homme. Nous avons vu verset 26, il nous dit, l'homme, que l'homme domine, soit maître sur toutes les espèces de la terre. Verset 28, Dieu les bénit et dit à l'homme d'assujettir, dans le sens de dominer, la terre. Chapitre 2, verset 15, Dieu place l'homme et la femme au jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 19, l'homme devait nommer, donner des noms aux animaux comme Dieu qui avait nommé une grande partie de la création. Donc l'homme est appelé à exercer ici toutes sortes de métiers, intellectuels, manuels, artistiques, dans le but d'entretenir la création de Dieu et d'en développer toutes les virtualités, c'est-à-dire toutes les qualités qu'on peut trouver. L'homme a cette responsabilité. Il n'est pas appelé à travailler juste pour travailler. Non. Il doit travailler pour ses besoins physiques, psychologiques, pour le besoin de sa famille et ceux de ses concitoyens, et surtout pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, la Bible nous présente Dieu comme un Dieu actif. Ce que nous voyons ici, on nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu fit l'étendue, Dieu fit. Donc voyons au septième jour, Dieu acheva toute son œuvre. Donc l'action créatrice de Dieu est vue comme un travail. Voyons comme un Dieu qui travaille. Dieu a travaillé pendant six jours. Il s'est reposé le septième, Genèse 2, 2. Donc il a ici, nous voyons qu'il a institué un rythme de travail et de repos. Les psaumes, on nous dit, les psaumes exaltent l'œuvre de ses mains, psaume 19. Les cieux proclament l'œuvre de ses doigts, psaume 8. Donc, après avoir achevé toute l'œuvre de la création, Dieu ne s'est pas retiré dans l'inactivité. Non, la Bible nous dit bien qu'il prend soin de la terre et il l'arrose. Il renouvelle la surface de la terre par son esprit. Donc, l'Ancien Testament nous présente Dieu sous l'image des différents travailleurs. L'agriculteur qui plante, qui ensemence, récolte et ne laisse pas reposer sa main. Le berger qui veille sur ses brebis, l'image de Dieu ici. Le constructeur, le potier. Nous voyons que Dieu agit et attache du prix au travail des hommes. Le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc Dieu a même ici la fonction de prédicateur, parce que c'est son esprit qui agit dans le monde. J'aimerais tirer, si vous voulez bien, deux petites leçons. Pour ceux et celles qui sont proches de la retraite, comme moi, ou qui y sont déjà, quand on lit ces textes, nous voyons qu'il n'y a pas de place pour l'inaction. À l'image de Dieu, nous sommes appelés à agir en fonction de nos forces et de nos dons. Je dis que Dieu intervient et agit dans tout travail qui l'honore, tout travail qui aide l'autre, sur notre concitoyen. Oui. Le sage dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Proverbe 12, 27. Pourquoi est-elle un précieux trésor? Parce qu'elle enrichit notre vie et donne un contenu à nos journées. Oui, Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Et l'apôtre dira même à être simplement que notre lumière luise, notre lumière brille dans le monde, devant les hommes. Comment pouvons-nous briller en tant que chrétiens dans nos différentes activités? C'est au milieu de nos collègues au travail. Le psalmiste continue, ce qu'il y a de mieux à faire pour l'homme, c'est de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Car si Ecclésiaste continue, il dit, si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu, mais un dur labeur. Donc ici, montre que vraiment, nous devons toujours être actifs. Le prophète Ésaïe, qui annonce de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il ne décrit pas un monde d'oisiveté, mais un monde où le travail des hommes sera libéré de la vanité et de la peine. Ésaïe 65 dit, « Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront, ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains, ils ne peineront pas en vain. » Oui, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, peut-être la pénibilité n'y sera plus, mais le travail, on travaillera toujours. Oui, en plus du maintien physique et intellectuel que nous apporte l'activité, j'aime bien ce mot du philosophe et écrivain Voltaire qui dit ceci. Il dit, le travail est un remède contre la nuit, le vice et le besoin. D'autres traduiront d'une autre manière que le travail éloigne de nous trois dangers. C'est vrai, la nuit, le vice et le besoin. En tout cas, la vision biblique du travail, c'est de suivre l'exemple de notre Créateur, toujours à l'œuvre pour manifester sa gloire et pour le bien de l'humanité. Oui, frères et sœurs, c'est vrai que, comment aborder un sujet pareil pendant les vacances? Mais poser simplement la question, quelle est notre conception du travail? Une bénédiction de Dieu ou un fardeau? Sommes-nous souvent vus comme ceux ou celles qui font le minimum syndical dans nos entreprises? Mais réfléchissons ensemble, frères et sœurs. Peut-être j'ai du temps, peut-être j'ai des moyens autour de moi. Il y a une association à but non lucratif qui a besoin de moi. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une société qui évolue des familles monoparentales. Telle, je peux m'engager à suivre les devoirs du petit à la rentrée, aider les familles. Peut-être il y a une personne âgée et seule qui a besoin qu'on l'accompagne faire des courses une fois par semaine. C'est aussi une façon de briller comme lumière du monde, comme le sel de la terre. Soyons à l'œuvre comme notre Père céleste est à l'œuvre. Le fait que Dieu soit un travailleur confère sa dignité au travail. Oui, Dieu travaille. Donc, si Dieu travaille, ça veut dire que le travail est bon et noble. Travailler n'est ni vil ni humiliant. C'est d'être semblable à Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, donc travailleur. Jésus nous le dira. Comment s'est-il présenté? Comme roi philosophe à l'image des Grecs? Non. Comme grand homme d'État juste comme les Romains l'imaginaient? Non. Il est venu dans ce monde comme fils de charpentier. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu. Mais il est venu comme fils de charpentier. Vous savez qu'à l'époque, à cette époque-là, le fils faisait toujours le même métier que son père. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est présenté pour montrer ici la force du travail que doit avoir le travail dans nos vies. Lui-même résume toutes ses activités en disant « Mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. » Jean 5, 17. Il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Oui, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu actif et travailleur. En opposition au Dieu païen, il dira « Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit toutes ses propres œuvres. » Pour les réformateurs, oui, la vision chrétienne du travail dans laquelle nous sommes appelés à intégrer est que tout travail, quel qu'il soit, est un acte d'adoration pour Dieu qui nous a appelés et qui nous équipe pour l'accomplir. Des fois, ça nous arrive, même quand jeune chrétien, on se dit, mais on se pose la question, mais quel est mon don? Comment je peux connaître mon don? C'est en travaillant, en faisant peut-être plusieurs métiers, en testant beaucoup de choses, qu'on découvre son don. Calvin écrit, il dit, « Toute œuvre, si méprisée, si basse soit-elle, brille devant Dieu, si du moins elle correspond à notre vocation. Toute œuvre, si méprisée, si basse soit-elle, brille devant Dieu. » Oui, accepter notre travail comme une vocation que Dieu nous adresse et à lui offrir. Si nous agissons ainsi, nous pouvons avoir la certitude que la gloire de Dieu rayonne à travers toute tâche que nous accomplissons. Parmi les réformateurs, Luther ajoute ceci, on peut trouver le contentement dans notre travail, même si ce travail n'est pas, selon les critères du monde, passionnant et bien payé. Mais être utile aux autres, être vu comme un appel à aimer notre prochain. Travailler, c'est aimer notre prochain. Dans un de ces articles que j'ai lu de M. Blocher, dit ceci, « Le Seigneur, sans que nul moineau ne batte de l'aile, c'est donner sens aux tâches, même qui ensemble dépourvues. C'est donner sens au travail. Donc, quand nous travaillons, c'est vrai, c'est le Seigneur, à un moment donné, qui nous oriente, qui nous permet d'améliorer, mais il faut toujours être à l'œuvre. Terminer pour nous encourager à reconsidérer notre travail et avoir comme une bénédiction de Dieu, je résume ici quelques fonctions positives du travail. Le travail peut être une source de bénédiction pour les autres. Le travail peut être aussi un test de notre sanctification. Le travail rend service à l'humanité. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc en travaillant, nous rendons service à l'humanité. Et même des fois, un jour, le Seigneur jugera des personnes en fonction du témoignage que nous aurons apporté là où nous sommes, par notre façon de travailler, frères et sœurs. S'il satisfait un certain nombre de besoins psychologiques, il répond aux besoins humains de réaliser quelque chose. Oui, par le travail, on pourvoit aussi aux besoins élémentaires de la vie. Le travail peut être une source d'épanouissement qui permettra à l'homme de développer ses dons. Le grand psychanalyste Freud avait remarqué que dans ses analyses et travaux, que l'amour et le travail étaient les deux activités essentielles pour lesquelles les gens donnaient un sens à leur vie. Le travail donne un sens à la vie. Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler à l'hôpital psychiatrique. Je ne comprenais pas très bien la place de l'ergothérapie à l'hôpital. Mais j'accompagnais les patients et cela aidait. J'ai découvert que cela les aidait à recouvrer la santé et à se ressourcer, en plus des médicaments. Il y a un monsieur d'un certain âge qui est allé un jour faire de la poterie. Il a fait un bonhomme de terre et il était content, tout le monde est content. Et quand il est monté, il a montré à la psychologue. C'est vrai qu'en regardant ce bonhomme, l'a félicité, il dit, c'est bien, vous commencez à travailler. Mais il dit, mais que ce bonhomme est triste. Ce monsieur s'est rendu compte. Ce n'est pas le bonhomme qui était triste, c'était lui qui était triste. Par ce travail, il a découvert, il a commencé à comprendre, à chercher à comprendre sa tristesse, le fond de sa tristesse qu'il avait amené là. Ce que j'ai découvert aussi, exactement dans l'article dit M. Blocher, le travail contribue aussi à l'estime de soi. Par son travail, l'homme se révèle et s'épanouit. Par son travail, l'homme se révèle et s'épanouit. Ça, c'est ce que j'ai pu expérimenter, c'est en voyant des gens s'épanouir par le travail. Juste, c'était une vision chrétienne du travail. Si Dieu le permet, la semaine prochaine, nous essaierons de parler un peu de la grâce universelle. Qu'est-ce que la grâce universelle? C'est-à-dire comment Dieu intervient dans la vie des artistes, intervient dans la vie des personnes qui sont loin de vraiment de croire ou de vouloir croire en Dieu. Mais Dieu intervient dans la vie des uns des autres. Nous verrons deux points. Nous verrons le témoignage bouleversant de la femme de Bernard Loiseau. Jeune cuisinier, avait son CAP de cuisine, mais révolutionna le patrimoine culinaire français. Il fit connaître ce patrimoine dans le monde entier, au Japon, en Amérique, dans toute l'Europe. Il devint une référence. Mais que fut son secret? Nous en reparlerons la semaine prochaine. Quel fut le secret de cet homme? Nous l'avons lu, Genèse, chapitre 2, chapitre 1, verset 31, on nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Tout ce que Dieu avait fait, et voici, cela était très bon. Et c'est dans ce jardin d'Éden qu'il plaça l'homme pour qu'il le cultive. Ça, c'est ce que ça m'a amené à réfléchir. Pour moi personnellement, moi qui ai l'habitude de marcher dans Paris, à connaître certains jardins. Dans un beau jardin, qu'est-ce que je compte faire? J'entre dans la contemplation, la méditation. Mais Dieu place l'homme dans un jardin où on nous dit c'était déjà très bon. Donc qu'est-ce que Dieu voulait apprendre à l'homme? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Nous le verrons cette semaine. Je vous encourage à méditer, que nous mettions ensemble ces différents versets. Si vous voulez bien, nous allons terminer ensemble, lire le psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble, quoi que ça s'affiche? Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen.